I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Delaposta et avec Stéphane Vrignot, on va revenir sur l'actualité de la F1 et évidemment, on va parler de ce Grand Prix d'Italie. Stéphane, t'es en forme?
Oui, comme d'habitude, et toi Gilles? Prêt à débriefer?
Oui, et il y a des choses à dire hein, sur ce Grand Prix d'Italie. Évidemment, on va commencer, une fois n'est pas coutume, non pas par le vainqueur, mais par l'accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. On est passé près d'un drame au 26e tour de ce Grand Prix d'Italie avec un duel donc, qui a dégénéré entre le champion du monde en titre et celui qui est actuellement en tête du classement. Le retour en grâce de Daniel Ricciardo et de McLaren, parce que indépendamment de cet accident entre Hamilton et Verstappen, Ricciardo s'est imposé pour la première fois depuis 3 ans et McLaren retrouve la plus haute marche du podium depuis plus d'une décennie. On voulait évidemment revenir sur le passé un petit peu compliqué de la firme McLaren et aussi des difficultés de Ricciardo avant cette victoire. Et puis on terminera par faire un bilan de ce deuxième week-end un petit peu particulier hein, du point de vue du format avec cette course de qualification le samedi. Alors, est-ce que c'est réussi ou plutôt pas? On a le sentiment en regardant ce qui s'écrit, en écoutant ce qui se dit, c'est la deuxième apparition hein, de ce programme après Silverstone. Et donc, on essaiera d'en tirer le bilan. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant, Stéphane, avec ce duel qui dégénère entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Un rapide rappel des faits. Ricciardo fait la course en tête sur ce Grand Prix d'Italie. Il s'arrête au 21e tour. Verstappen s'arrête dans la foulée, mais il va perdre beaucoup de temps. Problème à la roue avant droite. Hamilton, lui, attend 2 tours de plus avant de passer au stand. Problème aussi pour le Britannique, si bien que les deux se retrouvent à la sortie des stands en même temps dans la chicane. On est au 26e tour. Les roues des deux monoplaces se chevauchent. La Red Bull termine sur la Mercedes. Heureusement, personne n'est blessé. Pourtant, la roue arrière droite de Verstappen est allée toucher le casque de Lewis Hamilton. Le halo a quand même prévenu toute blessure. Verstappen, qui finalement hérite d'une pénalité de 3 places sur la grille pour le prochain Grand Prix en Russie. Pas la première question, Stéphane, que j'ai envie de te poser. Est-ce que la sanction te paraît justifiée pour Max Verstappen?
Oui, on reviendra peut-être en détail dessus. Verstappen, en fait, tout au long de ce deuxième virage, était légèrement en retrait par rapport à la voiture de Lewis Hamilton. Ça ne lui donnait aucune priorité, même pas la corde du numéro 2. Donc, sa responsabilité était engagée. La direction de course aurait pu traduire ça par un fait de course, ce que réclamait Verstappen. Vitantonio Liuzzi, qui était le pilote dans le collège des commissaires, en a décidé autrement. 3 places de pénalité, ce n'est pas énorme. Je crois que c'est ce que Bottas avait eu pour son strike en Hongrie. Tu vois. Donc, bon, il s'en sort bien.
Alors, ça a quand même été une décision difficile à prendre pour le collège des commissaires. Tu parlais de Liuzzi, mais il n'y a pas que lui. Il y a Donnelly, l'Australien, qui était là. Enfin, ils sont plusieurs à discuter. C'est un petit peu long, c'est un petit peu fastidieux, mais je te propose quand même de nous intéresser au rapport qu'ont émis les commissaires pour justifier leur pénalité. Les commissaires ont observé sur les images de vidéosurveillance que le conducteur de la voiture 44, autrement dit Hamilton, empruntait une ligne d'évitement, bien que sa position ait provoqué le passage de la voiture 33 sur le vibreur. Déjà là, s'il fait une manœuvre d'évitement, on ne voit pas comment il peut emmener Verstappen sur le vibreur. Mais on continue. Les commissaires ont observé que la voiture 33, donc Verstappen, n'était pas du tout à côté de la voiture 44 à l'entrée du virage 1. Ça, c'est ce que tu disais. S'il avait été à la même hauteur, à ce moment-là, les torts auraient sans doute été répartis différemment. De l'avis des commissaires, cette manœuvre a été tentée trop tard pour que le conducteur de la voiture 33 ait le droit à l'espace de course, alors que la voiture 44 aurait pu s'éloigner davantage du bord du vibreur pour éviter l'incident. Les commissaires ont déterminé que sa position était raisonnable et donc conclu que le conducteur de la voiture 33 était principalement responsable de l'incident. Donc, pénalité pour la voiture 33, pour Verstappen, mais on voit que ça a quand même été très très compliqué à juger cette histoire.
Pour être deux, il faut une entente. C'est ça le principal constat. Moi, je retiens une chose, c'est que quand deux pilotes se comprennent et se respectent, il y en a un qui laisse un petit peu de place ou il y en a un qui sait freiner juste à temps. Et Verstappen a été jusqu'au boutiste dans tout ça. Il est passé sur la partie verte et puis il s'est retrouvé ensuite sur cette saucisse, cette bordure bombée qui est vraiment désagréable et qui casse les fonds plats. C'était quelque chose d'assez extrême. Et dans sa démarche, quand même, c'était de pousser Hamilton à écarter. Et à la sortie de numéro 2, je pense que Verstappen n'aurait pas fait de cadeau à Hamilton parce que là, il l'aurait poussé dehors. C'est vraiment sa façon de faire. On l'a vu d'autres fois. Là, on ne spécule pas là-dessus sur son comportement. Donc,
ça avait été son attitude sur le premier tour, hein, d'ailleurs.
Ouais, il s'est fait prendre à son propre piège, mais la réponse était presque dans son équipe. Lors de la course sprint, samedi, son coéquipier, Perez, avait été beaucoup plus propre dans un cas de figure, dans sa bataille avec Stroll. Et lui, il avait ralenti juste à temps dans ce fameux virage numéro 2 et il avait coupé la chicane. Et au tour suivant, en fait, il avait fait un dépassement propre. Bon, Verstappen ne se voyait peut-être pas refaire un dépassement ou une tentative au tour suivant, mais en bonne intelligence, Checo Pérez avait montré l'exemple. Et c'est ce qu'il faut faire, de toute façon, si on a un petit peu un instinct de conservation là-dessus. Donc Verstappen a été un petit peu bête.
Verstappen savait que lui, qui était avec des pneus plus durs que Hamilton, savait que de toute façon, c'était la seule et unique chance de prendre l'avantage sur le Britannique et qu'ensuite, il n'aurait plus cette possibilité par rapport à Hamilton. Mais où je te rejoins un petit peu, et c'est un petit peu ce qu'a dit Toto Wolff. Hein, maintenant, la question, c'est et maintenant, comment ça va se passer? Parce que Toto Wolff a eu finalement... Alors, Wolff d'un côté, Horner de l'autre pour Red Bull, ont chacun fait l'avocat de leur pilote, ça c'est logique, on ne peut pas leur reprocher, mais c'est quand même Toto Wolff qui, pour moi, a dit une chose très intéressante en évoquant le fait qu'il va falloir trouver un moyen pour que les deux puissent courir ensemble maintenant, parce que là, on voit bien que ça y est, ce sont les égos qui ont pris le dessus. Il y avait déjà eu un accident très, très spectaculaire, très dangereux à Silverstone, on s'en était sorti sans blessés graves. Je parle pour Verstappen, mais je parle aussi pour le public, hein, parce qu'il y a quand même une roue de la Red Bull de Verstappen qui s'était décrochée de la voiture et qui, par miracle, n'est pas allée dans le public, mais elle aurait tout à fait pu y aller. Et à ce moment-là, on aurait pu dénombrer quand même des victimes. Là, la roue arrière droite de Verstappen qui touche le casque de Hamilton, on n'était quand même pas loin, là aussi, d'un gros accident. Donc, il va falloir effectivement, sans doute, réunir un petit peu tout ce beau monde en leur demandant de faire une course en bonne intelligence. Ça n'empêche pas d'être agressif dans le bon sens du terme, mais on a quand même franchi les limites, là, on a le sentiment. Entre Silverstone et Monza, ça fait beaucoup.
Il y a un engrenage, il y a une escalade, c'est certain, mais il faudra d'abord qu'ils en parlent eux-mêmes, parce qu'ils sont des grands garçons quand même, sans intermédiaire, on va dire. Et il faudrait qu'ils fassent au moins cette démarche-là, mais je dirais que ça, c'est une double conséquence qui s'est passée dimanche de ce qui était arrivé à Silverstone. Et dans le virage numéro 6, avant même l'attaque sans objet d'Hamilton sur Verstappen qu'il avait envoyé dans le décor à Copse, dans le virage numéro 6, donc, Hamilton avait réussi à prendre une demi-longueur d'avance sur la voiture de Verstappen, mais Verstappen était à la corde et Hamilton lui avait laissé de la place pour ne pas risquer l'accrochage finalement. Et ensuite, Hamilton s'était étonné de façon un petit peu abusive quand même que Verstappen ne lui laisse pas non plus de place dans le copse. Mais bon, quand tu prends un virage à, je sais pas, 250 ou 280 km/h, tu ne regardes pas dans tes rétroviseurs. Mais grosso modo, Hamilton avait dit, mais moi, je lui laisse de la place et lui, il ne prend pas l'appareil. Donc, c'est ça un petit peu le problème. Et c'est le souci aujourd'hui de Verstappen. Il ne comprend pas que dans ce genre de situation, c'est un petit peu donnant-donnant, c'est un prêté pour rendu, il y a des codes de la piste et il ne peut pas être toujours celui qui veut s'imposer. Et d'ailleurs, chez Mercedes aussi, il y a Andrew Chauvelin, le chef ingénieur, qui a des propos toujours assez pondérés et qui ne prend pas position habituellement sur ce genre de problème parce que ce n'est pas son job, mais il dit vraiment Verstappen ne pouvait pas passer ce virage numéro 2 à Monza, et il choisit toujours en fait de passer en force, de forcer à la main plutôt que de concéder une position à Lewis Hamilton. Je crois qu'il a tout dit là-dedans, et il va falloir maintenant que Verstappen gagne un petit peu en maturité de ce côté-là.
On verra ça. Moi, alors, au-delà du fait, tu vois, de savoir finalement qui de Lewis Hamilton ou de Max Verstappen est allé trop loin dans sa démarche à Silverstone ou à Monza, j'en reviens aux installations. C'est moins vrai pour Silverstone, mais alors là, je suis vraiment totalement convaincu de ce que je vais dire sur Monza, c'est que, encore une fois, les installations sont probablement aussi responsables de ce qui s'est passé entre les deux hommes, parce qu'on aurait mis un bac à gravier de l'autre côté de la chicane, et à ce moment-là, Max Verstappen ne se serait pas retrouvé passager de sa voiture. Là, le problème, c'est que Hamilton referme un petit peu la porte dans le deuxième virage de la chicane, dans le virage à gauche. Verstappen ne peut que obliquer vers l'intérieur de la chicane où il y a ses vibreurs, et à ce moment-là, c'est plus une Formule 1 dont il est aux commandes, c'est d'une luge, parce que les roues ne touchent plus le sol, elles sautent sur les vibreurs, et après elle part où elle veut, et là en l'occurrence elle est partie sur le capot moteur de la Mercedes. S'il y avait eu un bac à gravier, déjà, je pense que l'attaque de Verstappen ne se serait pas produite de cette manière, parce que là clairement les pilotes savent que s'il y a un bac à gravier, il y a danger de se mettre dedans et d'y rester. Et puis deux, quand bien même y serait-il allé, la voiture se serait enfoncée dans le bac à gravier et n'aurait pas rebondi. Et on sait très bien qu'une voiture qui ne touche plus le sol, c'est un projectile. Donc, encore une fois, les installations des circuits ont un rôle primordial à jouer en termes de sécurité aussi. Ça peut paraître bête, mais là, avec ces dégagements bitumés et ces sortes de bananes là, qu'on met au-delà des vibreurs, on fait exactement l'inverse. On enlève le contrôle possible des pilotes dans une situation critique. Donc, autant mettre un bac à gravier. Et je dis ça alors que le prochain Grand Prix, dans 15 jours, c'est à Bitumeland, à Sochi, où il n'y a pas un gramme de gravier à 50 km à la ronde et où on risque de s'ennuyer fortement. Donc, moi, je pense que les installations jouent aussi un rôle.
Alors oui, tu sais, Gilles, le problème, c'est que si tu en mets des bacs à gravier, je sais pas les dernières fois qu'on les a vus à Monza dans ce virage-là précisément, moi j'ai toujours l'impression d'avoir une portion bitumée, tu vas aller chercher deux ou trois voitures dans le gravier pendant le Grand Prix, et ça va faire autant d'interruptions, et ça, c'est pas bon pour le show. Il faut que... faut pas qu'une course soit hachée par des interventions de la voiture de sécurité, même si c'est devenu un petit peu une habitude, mais la réserve que j'émettrais là-dessus et le fait que c'est plus vraiment possible de revenir en arrière. Mais pour en venir au devenir de ce duel, que moi, ce que je trouve regrettable, c'est que quand on demandera aux gens à la fin de la saison qu'est-ce que vous retenez du duel entre Verstappen et Hamilton, ils diront les accrochages, les accidents de Silverstone et de Monza, forcément, alors que on a assisté à quelque chose de rare cette année, de duels en piste, de vrais duels avec des remontées fantastiques à Montmelo et au Castellet. Hamilton sur Verstappen en Espagne et Verstappen sur Hamilton en France, qui s'était terminé par des dépassements sur la piste. C'est ce qu'on veut voir en toute fin de Grand Prix. Ça, c'était juste magnifique, mais ça, en fait, c'est oublié maintenant. Et la question, c'est est-ce qu'ils sont plutôt maintenant dans l'esprit de continuer comme ça? Alors, il y a Jackie Stewart qui est quand même triple champion du monde. Il s'est étonné aussi de l'attitude de Verstappen après le crash, et c'est vrai, Verstappen avait vilipendé le comportement dangereux en piste de Lewis Hamilton et irrespectueux à l'arrivée quand il avait fêté vraiment sa victoire dans l'euphorie et que Verstappen était au centre médical et puis ensuite avait été transféré à l'hôpital. Mais Verstappen n'a pas eu un mot ou quasiment pas un regard pour Hamilton. Bon, il s'assurait quand même qu'il bougeait dans la voiture, mais la moindre des choses aurait été de lui passer un petit mot, dire « Ok, ça va, gars, c'est tout ». Alors après, je sais aussi que Bottas est allé voir Russell pour lui passer une rouste à Imola après le raccrochage. Donc, il y a toujours un petit peu d'adrénaline aussi dans ces cas-là. Mais Stewart a dit « Verstappen met quand même plus de temps qu'il ne faudrait pour avoir la maturité nécessaire dans ce genre d'événement et puis au-delà de ça, dans son comportement même ». Il n'est pas allé voir Hamilton, c'est vraiment très dommage. Et c'est ça aussi que je retiens. Et c'est la patte qu'il met aussi sur son éventuel titre de champion du monde cette année. Et chez Red Bull, apparemment, on n'arrive pas à le contrôler à ce niveau-là. Et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Peut-être qu'on va devant un accident encore plus grave d'ici la fin de l'année.
Bon, faut pas le souhaiter. Moi, honnêtement, sans vouloir me faire l'avocat de Verstappen, je ne suis pas certain en fait, que Verstappen ait compris que... qu'il était passé si près du casque de Hamilton. Quand il descend de la voiture, je pense qu'il ne peut pas. Puis bon, déjà, oui, l'adrénaline, la déception, je pense qu'il n'a pas imaginé.
Il voit quand même l'état de l'arceau de la Mercedes. Il est passé par-dessus la Mercedes. Il se dit, il y a peut-être eu quelque chose quand même. Enfin, la moindre des choses, c'est un petit peu de checker, quoi.
Je pense que c'est plus facile d'avoir du recul quand on est devant son écran que quand on est au volant avec tout l'engagement et toute la déception. Mais effectivement, ça reviendra forcément sur le sujet. On va pas s'éterniser. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Ça fait finalement un abandon de chaque côté pour ce Grand Prix d'Italie. On verra, les retrouvailles en Russie risquent d'être un petit peu fraîches entre les deux hommes. Le deuxième sujet qu'on voulait évoquer avec Stéphane Vrignot dans Les Fous du Volant, c'est évidemment cette victoire de Daniel Ricciardo et ce doublé de McLaren avec la deuxième place de Lando Norris. L'éloge de la persévérance, hein, parce que on l'a dit, hein, ça fait plus de 10 ans que McLaren n'avait pas remporté de doublé. Hein, ça remonte au Brésil. Non, le doublé, c'était Canada 2010, pardon Stéphane, puisque tu as fait des recherches. Et la dernière victoire de McLaren, c'était Jenson Button au Brésil en 2012. C'est d'ailleurs la deuxième plus longue attente entre deux victoires pour un constructeur historique. McLaren, Stéphane, tu veux nous donner quelques chiffres. Derrière Ferrari, c'est vraiment la deuxième équipe de la Formule 1.
Oui, alors effectivement, le jeune public qui suit la Formule 1 aujourd'hui ne sait quasiment pas ce qu'a fait McLaren par le passé. C'est quand même la deuxième écurie dans l'histoire. Derrière Ferrari, on a eu dans les années 80 un superbe duel entre Ferrari et McLaren, la plus prestigieuse contre l'écurie la plus compétitive sur la piste. Et McLaren, effectivement, n'a plus gagné depuis 9 ans. Elle a disputé son premier Grand Prix à Monaco en 66 et elle a quand même 12 titres. Pilote, elle a 8 titres constructeurs. Alors, des titres pilotes, je vois les noms, Fittipaldi, Hunt, Lauda, Prost, Senna, Hakkinen, Hamilton. Enfin, c'est juste extraordinaire. Et donc, c'est 183 victoires. C'est le deuxième au palmarès derrière Ferrari. Et puis, c'est quand même aussi 48 doublés. C'est le troisième dans l'histoire de la Formule 1. Et c'était le premier de la saison 2021 dimanche. Donc, McLaren a fait quelque chose de particulier aussi. Et puis, c'est quand même aussi 155 pole positions. Là aussi, ça place quand même l'écurie sur l'échiquier.
Et il y a une phrase hein, de Daniel Ricciardo qui résume finalement le prestige de cette équipe McLaren. Il a dit quand même, quand vous imaginez que je vais ramener le trophée dans les locaux de l'équipe et que je vais poser un trophée qui porte mon nom à côté de ceux de Ayrton Senna, ben... excusez-moi, c'est énorme. C'est vous dire, effectivement, tu parlais des jeunes amateurs de Formule 1. Oui. McLaren, ça n'a pas été que l'équipe de fond de grille qui se fait un petit peu chambrer par ses propres pilotes. On va reparler de Fernando Alonso. Ça a été vraiment une immense écurie qui a connu, donc, on va dire, trois passades hein, sur la dernière décennie. L'association avec Honda qui tourne absolument au désastre, hein, puisque c'est l'époque où Fernando Alonso qualifiait le moteur Honda de moteur de GP2.
À
Les
Suzuka.
Japonais, c'est ça, les Japonais avaient moyennement apprécié. Ensuite, en 2018, McLaren finalement se sépare de Honda, revient dans le camp de chez Renault. C'est là qu'on va avoir quelques podiums. Entre-temps, évidemment, Zak Brown est arrivé, et je sais que tu veux parler du patron de cette équipe, du patron américain de cette équipe. Et puis donc, 2021, retour du moteur Mercedes, et tout de suite, ben, on voit que ça se passe bien, parce que Lando Norris est quand même quatrième du championnat des pilotes, et qu'on a effectivement le premier doublé cette saison. Alors, ça c'est le retour en grâce, on le disait, et la remontée finalement de McLaren, elle correspond à l'arrivée de Zak Brown en 2016 au sein de cette équipe, à la tête de cette équipe même, Stéphane.
Oui, j'ajoute un chapitre, Gilles, si tu me permets. 2020, McLaren a tout bonnement failli disparaître avec la crise du coronavirus. Au plan industriel, en fait, la marque ne pouvait plus vendre de voitures, ne pouvait plus payer ses fournisseurs, ne pouvait plus payer ses factures. Et il y avait un péril immédiat de disparition, une crise de trésorerie, vraiment une insolvabilité destructrice. Zak Brown voyait ce spectre-là arriver et ils avaient obtenu un prêt de dernière minute de 164 millions d'euros d'une banque souveraine du Bahreïn, dont le royaume est actionnaire majoritaire dans McLaren. McLaren avait licencié 1200 personnes, 70 quand même, au sein de l'écurie, et elle avait terminé difficilement quand même 2020, mais le budget cap est venu aussi quand même aider McLaren dans cette ascension avec, je crois, c'est un budget de 135 millions limite maximale à ne pas dépasser cette année. Alors, Zak Brown, effectivement, c'est lui, on va dire, qui était à l'origine de tout. Il a été le successeur de Ron Dennis, mais c'est surtout, comme tu le disais, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul. C'est un self-made man, c'est une belle histoire. En 91, il avait le rêve de piloter en Formule 1. Il était en Angleterre, puisqu'il s'était déplacé là-bas. C'est là où on commence une carrière. Il pilotait en Formule Ford, et pour payer ses courses, il faisait plein de petits boulots, dont laveur de voiture pour l'école de pilotage de Donington. Il s'est essayé à la Formule 3 et dit: j'étais nulle part. Donc là, conclusion logique, il retourne en fait, il quitte l'Angleterre, il retourne en Californie. Et là, il y a un petit drame, même un grand drame, c'est un tremblement de terre qui détruit sa maison. Et il décide de tourner la page, de s'installer sur le circuit d'Indianapolis. Et dans ces années-là, en fait, bien, il y a un certain Mansell qui pilote en IndyCar. Brown travaille dans une école de pilotage. Et comme il est attiré, sa deuxième passion après le pilotage, c'est le marketing, c'est chercher des sponsors. Bien, en fait, il décroche son premier sponsor et il le place dans l'écurie de Mansell en Formule 3000 en Grande-Bretagne. Et là, l'histoire démarre. Il crée en 1995 un empire, ce qui va devenir un empire vraiment du droit du sponsor dans l'univers du sport. Il travaille d'abord en NASCAR, il travaille beaucoup avec l'IndyCar aussi, et le déclic, c'est vraiment 2006. Il place un sponsor chez McLaren, et là, eh bien, il a ses entrées dans le paddock. Il apprend les codes de la Formule 1, il va revendre sa société de management, et il va devenir patron en endurance. Il va gagner ses galons de patron de compétition, et c'est comme ça que McLaren va le choisir comme successeur de Ron Dennis fin 2016. Et là, il va tout changer, absolument tout. C'est assez impressionnant. On s'est dit, il est en train de tout changer, ça ne va jamais marcher. Il fait quelque chose de très important. Il a la notion des marques, de leur histoire. Il va remettre la couleur orange papaye publicité par les fans sur les voitures. Il va changer l'organigramme complet, les organigrammes à Woking, service marketing, finance, etc. Il va engager un nouveau directeur technique, James Key. Il va miser sur des jeunes pilotes, Lando Norris. C'est vraiment un pur produit McLaren, donc on sait ce qu'il en est aujourd'hui. Et puis, il va prendre aussi en directeur de la compétition Andreas Seidel, qui vient de chez Porsche. Et puis, il va faire un joli coup aussi l'an dernier en recrutant Daniel Ricciardo. Et là, tout est en place. Et il a même étendu son empire à l'IndyCar. Il veut faire aussi de la Formule E. Enfin, il a plein d'idées. Ça devient tentaculaire. McLaren devient vraiment un empire. C'est très intéressant tout ça. Et ils sont vraiment sur une courbe ascendante.
Exactement. Alors, Évidemment, alors tu as parlé de James Key, tu as parlé d'Andreas Seidel qui a fait gagner Porsche en LMP1 en endurance hein, aux 24 heures du Mans. Je te propose maintenant, effectivement, tu as rassemblé aussi quelques data sur la comparaison en fait entre Daniel Ricciardo et Lando Norris parce que honnêtement, depuis le début de la saison, si on nous avait dit McLaren va s'imposer ce week-end, évidemment, on aurait pensé qu'aux Britanniques, sauf que. C'est le plus expérimenté des deux. C'est Daniel Ricciardo qui est allé chercher cette victoire. Ricciardo qui n'avait plus connu le succès depuis le Grand Prix de Monaco 2018. Ça fait 67 Grands Prix qu'il attendait ça. Il y a des carrières en Formule 1, il y a beaucoup de carrières en Formule 1 qui ne font pas 67 Grands Prix. Hein. Bah, lui, c'est ce qu'il a dû attendre entre deux victoires, parce que c'est sa huitième victoire cette saison. C'est la deuxième place, c'est aussi le meilleur résultat en carrière pour Lando Norris. Le duel Norris-Ricciardo en course, ça donne quoi, Stéphane?
Là, pour l'instant, ça donne 132 points pour Norris contre 83 pour Ricciardo. Au nombre de victoires, évidemment, ça fait 1-0. Norris a fait sa deuxième place, il a enregistré son meilleur résultat ce week-end. Ça fait 4 podiums quand même pour Norris contre 1 pour Ricciardo. Et puis, dimanche, ils ont mené leur premier tour. Dans ce Grand Prix, je crois que Norris c'était 1 et puis Ricciardo c'était une bonne quarantaine, 45 ou 46. Donc ça se voit nettement en termes de course et ça se voit encore plus, la différence est encore plus criante en qualification puisque Norris a battu quand même 9 fois Ricciardo qui a eu le dernier mot dans l'exercice du tour unique le samedi à 5 reprises. C'est 13 présences pour Norris en Q3 contre 8 aussi là pour Ricciardo qui a été quand même éliminé une fois en Q1. C'était le naufrage total. Et aussi la meilleure Q3, bah, c'est une deuxième place sur la grille pour Norris et une quatrième pour Ricciardo. Donc si Ricciardo a gagné ce week-end, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt quand même parce qu'en termes de performance pure, Norris est devant.
Ouais. L'arbre qui cache la forêt, je vais reprendre aussi ce que tu nous dis. Et d'ailleurs, ça a été très vite mis en exergue par Andreas Seidel après ce doublé en disant bah, attendez, il ne faut pas se croire plus beau qu'on ne l'est parce qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire. On était en difficulté. Donc là, ce doublé, ça a rapporté 44 points à McLaren qui se retrouve donc assez largement désormais troisième au classement des constructeurs devant Ferrari. Mais. Comparé à ces 44 points, il faut faire le bilan des trois Grands Prix précédents où McLaren n'avait ramené que 7 points, c'est te dire les difficultés hein, au travers desquelles est passée cette équipe McLaren. Et il faut vraiment espérer que quand on arrive à Sochi, la dynamique de Monza se poursuive et qu'on ne se retrouve pas de nouveau confronté à ce qu'on a connu sur les derniers Grands Prix où vraiment les voitures orange étaient en grande difficulté.
Tout à fait. Alors, le petit paradoxe quand même, Gilles, c'est que ce circuit de Monza, qui est un circuit de freinage, qui est un circuit de grande vitesse, mais faire un chrono à Monza, c'est d'abord assurer ses freinages, eh bien, c'était le point d'achoppement pour Daniel Ricciardo depuis le début de la saison. On va le dire clairement, il n'encaissait pas le freinage de la McLaren et c'est ce qui le mettait très, très loin du rythme de Norris. Donc, c'est peut-être une amélioration décisive. On verra ensuite ce qu'il en sera. Il risque peut-être quand même d'avoir du mal encore de retour sur les circuits sinueux. Mais bon, en tous les cas, avec cette victoire, ça, il a fait sa saison. Là, il est tranquille. Et au moins, ce sacrifice qu'il avait fait de passer de Renault à McLaren a été payant d'une autre façon, puisque chez Renault, il était payé quand même 26 millions d'euros par an. Et il a accepté d'aller chez McLaren en se fiant au projet technique, à toutes ces promesses-là. Pour seulement 10 millions d'euros. Donc, c'est quand même tout bénef pour lui. On verra après s'il peut négocier quelque chose de supplémentaire. Mais c'est peut-être là aussi une mauvaise nouvelle pour Pierre Gasly, parce que si on voyait un peu Ricciardo en ballottage défavorable chez McLaren, là maintenant, il a repris la main, vraiment. Et je crois qu'il est sous contrat encore en 2023 avec une option pour McLaren. Ça ferme la porte quand même, clairement, à Pierre Gasly. Donc, c'est là où ça a un impact indirect sur le marché des transferts.
Exactement. C'est vrai que c'est quelqu'un d'éminemment sympathique hein, et d'ailleurs il a une super cote dans le paddock. Tout le monde était content finalement de sa victoire à part Lando Norris. Je pense qu'il a quand même essayé de demander à son équipe. Dites-moi, vous êtes sûr que ça serait pas mieux pour l'équipe qu'on inverse les positions? Mais c'est vrai que c'est pas super nouvelle non plus pour Pierre Gasly qui n'a pas passé un bon week-end. Les week-ends de la Monza se suivent mais ne se ressemblent pas pour le Français qui avait gagné l'année dernière et qui l'a abandonné très très tôt. Voilà, effectivement, ça a rallongé sérieusement maintenant la durée de vie de Daniel Ricciardo en Formule 1. Écoutez, tant mieux, tant mieux, tant mieux pour lui. Mais c'était quand même un scénario assez incroyable avec cette victoire. En plus, qui ne doit rien à personne. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'accident entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, c'était derrière Daniel Ricciardo. Faut le signaler parce que c'est pas grâce à ça qu'il a gagné. C'est pas une victoire de circonstance. C'est vraiment un succès qu'il est allé chercher lui-même en partant cinquième sur la grille de la course de qualification, en étant intelligent, en faisant un super départ dimanche. Et il est allé chercher cette victoire. Honnêtement, c'était quand même un super scénario pour lui.
Puisque, effectivement, tu me tends un petit peu la perche, Gilles, quand tu parles de cet esprit de conservateur qui avait eu de repli, de protection de Ricciardo, si tu regardes bien le départ de la course sprint, il challenge, il arrive devant, légèrement devant Verstappen au premier virage. Il est parti pour enrouler derrière et il est à la hauteur de la Red Bull et Verstappen lui claque la porte, tout simplement comme l'a fait Hamilton à son endroit dimanche. Et là, qu'est-ce qu'il fait Ricciardo? Il freine, tout simplement. Il ne va même pas sur les bordures, il est safe. Et ben, qu'est-ce que ça donne 24 ans plus tard? Ça donne la victoire, ça veut dire qu'il faut aussi un peu de pondération dans le pilotage, ça peut être payant.
On va passer, si tu le veux bien, Stéphane, à notre troisième sujet aujourd'hui dans les fous du volant. Vous savez qu'à Monza, on a reconduit ce format de week-end qu'on avait étrenné un petit peu plus tôt cette saison à Silverstone avec la course de qualification le samedi, la véritable qualification qui avait lieu, elle, directement le vendredi. Et donc, ça nous donne une nouvelle possibilité d'évaluer ce nouveau planning du week-end. Et alors Stéphane, tu n'étais déjà pas emballé la première fois. Manifestement, cette deuxième tentative en terre italienne ne t'a pas convaincu non plus.
J'ai regardé les commentaires un petit peu partout, des pilotes, des équipes et puis des fans, forcément. Et 16h30, ça me paraît être un horaire un petit peu bizarre pour une sieste. Je ferais plutôt décaler cette course à 14h30. Tu fais ta petite sieste pendant une demi-heure. Tu sais que la course au sprint se déroule et tu te réveilles et il ne s'est rien passé. C'est à peu près ça. Je schématise à peine, franchement, Gilles, entre nous, pour être honnête. À Silverstone, on l'avait dit, top 4 figé après un tour, top 10 à la moitié de la course, avant la fin du 8e tour. Donc, c'était un désastre. Et puis, on avait vu un petit peu le show Alonso, mais c'était sans grand intérêt parce que ça ne se passait pas directement devant. Puis on avait vu des auto-tamponneuses, des extraits de Dakar avec Pérez qui était sorti de la piste. Bon, on n'avait rien vu. Et là, samedi, Pierre Gasly, quand il est sorti de sa voiture, il s'est mis devant les écrans pour regarder ce qui se passait. Et il a dit, c'est clair et j'ai vu aucun dépassement. Bon. Et Pérez a dit, je pense que les gens se sont encore ennuyés, encore. Bon, et Ricciardo avait dit juste avant cette course sprint, je pense qu'on verra plus d'action qu'à Silverstone, ce qui en disait quand même long sur ce qui allait se passer. Et cette course a été bizarre jusqu'à son vainqueur, puisque elle est remportée par Bottas, ouais. Ce qui est quand même assez étrange. C'est
une dans une sorte d'incongruité, en fait.
Oui, en plus, franchement, Gilles, on en avait touché deux mots sur la fin du podcast de la semaine dernière en expliquant que tout changement de moteur hors quota amenant une pénalité serait purgé sur la grille du dimanche et que c'était somme toute assez logique. Et on n'a pas très bien compris tout de suite pourquoi est-ce que Mercedes expliquait que le changement, l'installation d'un quatrième moteur pour Bottas entre les libres 2 et cette course sprint du samedi après-midi était stratégique, je dirais. Eh bien, en fait, avec un moteur frais, avec son quatrième moteur hors quota, Bottas a pu faire la course le plus normalement du monde contre des pilotes qui avaient leur moteur numéro 2 ou 3, souvent le troisième moteur. Il avait un moteur frais et ça l'a aidé à maintenir la cadence devant et à prendre les 3 points d'une victoire qui, pour moi, sont à la limite de la légalité, très clairement. Et quand on a créé cette course sprint, on n'a pas amendé les règlements. Les gens ne se sont pas posé la question quelles conséquences dans ce cas de figure. Et je pense qu'il faudrait tout simplement, après l'installation d'un nouveau moteur hors quota avant une course sprint, eh bien, reléguer le pilote en fond de grille sur cette course sprint et en fond de grille le dimanche.
Alors, Je vais essayer de me faire l'avocat du diable parce que moi, je pense qu'il y a des bonnes idées dans ce nouveau format de week-end, même si, évidemment, c'est loin d'être parfait. Rappelle-toi, à Silverstone, ils avaient déclaré le vainqueur de la course de qualification comme poleman. Bon, finalement, là, on avait tout de suite dit c'est ridicule, hein, poleman, c'est un tour. Bon, ça a été changé. Je crois qu'il faut comprendre que on n'installe pas quelque chose de parfait d'entrée de jeu et qu'il va falloir effectivement à chaque fois modifier. Pour l'horaire, je suis d'accord avec toi, 16h30, ça me paraît un petit peu tard. Il y a des enjeux, je pense, de diffusion à télé qui viennent là-dedans. Après, pour ce qui est du manque de dépassement, du manque d'action en piste, je pense que ça vient aussi du fait que pour l'instant, on n'a pas le droit de changer, d'intervenir sur les réglages des voitures à partir du moment de la qualif jusqu'à la fin de la course du dimanche. Ce qui veut dire que les pilotes, les équipes engagent des voitures pour une course sprint qui ne sont pas réglées pour faire la course sprint. Ou alors, ça voudrait dire qu'on choisit de régler la voiture pour la course sprint qui rapporte au maximum 3 points en faisant l'impasse sur la course du dimanche qui, elle, potentiellement, rapporte 25. Ça serait complètement idiot. Je pense qu'il faut simplement réfléchir à donner la possibilité de faire quelques réglages, on va dire, basiques sur les autos entre la course de qualification le samedi et le véritable Grand Prix le dimanche pour réduire ce problème. Quant à Bottas, je suis d'accord avec toi. On est là dans une zone grise du règlement. C'est un cas de figure, je pense, que la direction sportive n'avait pas imaginé. Oui, quand tu changes de moteur avant la course de qualification, eh ben, tu dois prendre les mêmes pénalités qu'avant le Grand Prix. Ça me paraît logique. Il va falloir simplement ajuster tout ça. Je pense que les premiers Grands Prix de Formule 1, il y a 70 ans, on n'y était pas, on ne peut pas savoir, mais ça s'est pas toujours déroulé de manière idéale. Et quand on voit ce qui s'est passé à Spa en Belgique, on voit qu'on est encore soumis à un potentiel naufrage en termes d'organisation. Donc c'est normal que ça soit pas top. Je me permets quand même de revenir sur un point que j'avais déjà signalé à Silverstone. On n'est pas dans la cible, Stéphane, de ces modifications du format de week-end de course. Liberty Media, qui a donc repris les droits de la Formule 1, travaille maintenant depuis 2019 avec une société qui s'appelle Insight Family et qui étudie l'audience de la Formule 1 dans sa composition et dans son évolution. Et rappelle-toi, en 2020, ils avaient fait une tentative de diffuser le Grand Prix en Allemagne, le Grand Prix de l'Eiffel, c'était au mois d'octobre, sur YouTube. Pourquoi? Parce que y a une statistique sur laquelle ils s'étaient basés. 65% des 10-18 ans au Royaume-Uni n'utilisent que YouTube pour regarder ce que nous, on appelle la télé. Donc, ils vont chercher un jeune public et on n'est pas dans la cible. Donc, oui, le jeune public, il aime bien avoir des formats plus courts, il aime bien avoir des temps forts. Et ben, en mettant une course le samedi et une course le dimanche, on a un temps fort de plus et on a un format qui est beaucoup plus proche des aspirations du jeune public qui sont en train d'aller chercher parce qu'apparemment, ça marche. L'audience des Grands Prix pour les moins de 25 ans, la génération, je ne sais plus si c'est Y ou Z, c'est la génération Y, elle est en progrès. Donc, c'est normal que ça ne nous plaise pas trop à nous. Et je pense qu'il va y avoir d'autres nouveautés qu'on va aller piquer du côté de la Formule 1. Tu verras pour la saison prochaine.
Alors Gilles, je dirais que tu peux créer une course.
Pas taper, pas taper, pas taper.
tout dépend de ce que tu mets dedans, tout simplement. Tu vois, c'est ça la question. Alors pour en venir à ce constat, il y a peu de dépassement. Ce que j'ai trouvé un petit peu curieux, c'est qu'il n'instaure pas une troisième zone DRS entre la chicane Ascari, la dernière chicane, et puis la Parabolica. Ça aurait pu permettre des actions supplémentaires, augmenter les chances. Surtout que le promoteur du championnat, tu sais, quand il est arrivé, le détenteur de droit en 2017, il a mis deux zones de DRS sur les circuits où il n'y en avait qu'une, et puis là, il en a mis trois, où il en avait deux. Donc, on allait à l'inflation et on a laissé ça de côté. C'est un petit peu curieux, mais je dirais que les données, elles sont très basiques. Quand tu as des voitures qui se battent au dixième près et sur une grille de départ le vendredi et qu'un dixième, ça peut séparer trois, quatre ou cinq voitures, et que Tu te retrouves le samedi avec des voitures qui ont les mêmes pneus, qui ont la même charge d'essence, qui n'ont pas de différentiel de performance, tu ne peux pas avoir de dépassement puisque ces dépassements-là se passent en course. Quand on est sur différents temps pour une voiture 1 et 2, il y a une voiture qui a un temps faible, une voiture qui a un temps fort, et celle qui est dans une phase d'agressivité, elle peut dépasser parce qu'elle a une seconde de marge et elle ouvre le DRS et ça lui donne un supplément. Et donc là, c'est pour ça qu'on n'a quasiment aucune chance de voir, je dirais, des dépassements se dérouler. Et ce qui est un petit peu dramatique, c'est que Monza avait été particulièrement ciblé pour faire la promotion de ces courses sprint. Et on n'a pas tellement entendu ses promoteurs dire « c'était fantastique cette fois-là » parce que tout le monde s'était félicité à Silverstone, pas tellement à juste titre. Bon, alors on essaie de mettre aussi des choses un petit peu nouvelles. J'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu folklorique. Il y a mettre des médailles à la fin de la course. Alors, Verstappen a dit c'est la première médaille de ma vie. C'était juste fantastique, mais je me suis dit mais c'est bon quoi. Il manque plus que les cotillons et puis les confettis et puis une fanfare derrière parce que là vraiment on montrera qu'il se passe quelque chose de nouveau en Formule 1. C'est vrai à Silverstone, ils avaient mis, tu te souviens, ils avaient donné des couronnes de fleurs. De laurier, je crois, type années 70. Et là, ils se sont dit, non, c'est pas bon, là, on en revient aux années 70, on n'a pas les bons codes. Donc, c'est pour ça qu'ils ont, changé, ils ont mis ces systèmes de médailles qui existent depuis des décennies dans d'autres sports et dont personne n'avait voulu. Quand Ecclestone avait proposé ça juste avant les Jeux de Pékin en 2008, il avait parlé, on pourrait peut-être remettre des médailles. Et puis, le champion du monde, c'est celui qui a le plus de médailles d'or. Alors là, bon, il s'était fait renvoyer clairement dans ses 22 et puis on n'en avait plus parlé. Donc, on remet ça sur le tapis. Enfin, c'est grotesque. Franchement, ce n'est pas ça qui va faire que la course est passionnante. Trompe de cible et de moyens.
Encore une fois, ça a marché, ce format de week-end, parce que tu prends les qualifs. Ricciardo est cinquième de la séance de qualification vendredi et il gagne dimanche en faisant une course intelligente samedi, en faisant un bon départ. Et le fait d'avoir resserré le planning, parce que en conséquence de ce nouveau planning sur l'ensemble du week-end, il n'y a plus qu'une séance libre le vendredi avant la qualif. Si tu n'es pas bien là, et ça a été le cas par exemple pour Lewis Hamilton, alors que Bottas lui a quand même fait la pole position, même si ça a servi à rien au final, on voit bien que ça a provoqué des choses. Hamilton était parti tout de suite dans le mauvais sens. Quelque part, il a jamais pu corriger le tir, alors que Ricciardo, lui, cinquième en qualif, il se retrouve sur la première ligne pour le départ du Grand Prix dimanche. Il fait un bon départ, il gère bien, il gagne. Enfin, quelque part, je ne suis pas convaincu que ce résultat, il aurait été possible s'il y avait eu un calendrier normal pour ce Grand Prix d'Italie.
Plus tu mets de segments de compétition, Gilles, plus tu te donnes une chance qu'il se passe quelque chose. Dans cette course sprint, Horner l'a dit, il n'y a que Pérez qui a dépassé après la période de safety car, après l'accident de Gasly. Là, maintenant, aujourd'hui, on est arrivé à un point où on diffuse un message qui est complètement brouillé. Bottas, qui est en pole position, enfin qui fait le meilleur temps de la qualif, donc ordinairement, ça lui donne la première place de la grille. Et puis, on dit, de toute façon, il ne partira pas en pole position dimanche. Donc, c'est râpé. Donc, on t'explique que samedi, il partira devant, mais pas dimanche. Dimanche, il remporte la course, mais on te dit que c'est quelqu'un d'autre qui a finalement la pole position, un petit peu comme à Silverstone. Et puis, on est dans ces histoires de pénalités de moteurs qui sont un petit peu complexes. Et finalement, Ross Brawn s'est aperçu qu'il fallait clarifier les choses. Et lui, il pense plutôt à faire une qualif traditionnelle le vendredi avec officialisation de la grille de départ pour le dimanche. Il y avait un événement vraiment à part le samedi, ce qui serait un petit peu plus cohérent, on va dire, s'il faut aller vers cette course du samedi avec un format lisible, mais dont il faudrait changer la composition de la grille de départ parce que ça ressemblerait un petit peu trop à ce qu'on nous donnerait le dimanche. Donc, on en revient toujours à cette histoire de grille inversée, top 8, top 10, ce qui ne serait pas très équitable pour les concurrents, mais ça se fait dans d'autres catégories. Bon.
En tout cas, ce qu'on voit, et ça rejoint ce que tu dis, c'est que la formule ne donne pas satisfaction, ça, c'est un euphémisme, mais qu'on continue à vouloir changer un petit peu les choses Et le but, c'est vraiment de ramener de nouveaux spectateurs à cette discipline. Effectivement, on verra ce que ça va donner. Je sais plus, je te pose la question. Il y a une troisième expérience là sur ce format-là cette saison, il me semble.
Prévu normalement au Grand Prix de Sao Paulo plus tard dans la saison. Et je pense que là, en revanche, on verrait un petit peu plus de dépassement dans cette grande ligne droite en montée qui va vers l'Est de Senna. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'y prête un petit peu plus. On peut être un petit peu plus optimiste de ce point de vue-là.
Sauf que le Brésil, en ce moment, je ne suis pas convaincu qu'on soit vraiment parti pour aller y disputer un Grand Prix de Formule 1 compte tenu de la situation sanitaire là-bas. On croise les doigts parce que si on y va, c'est que la situation s'est améliorée, ce qui est quand même le plus important. Mais j'y crois pas trop pour l'instant. On verra ça. Mais bon, voilà, on va dire programme en cours, chantier en cours plutôt sur ces week-ends de sprint qualification. Je crois qu'on s'est tout dit, Stéphane. Après ce Grand Prix d'Italie assez mouvementé, on va pouvoir faire relâche là après trois Grands Prix consécutifs. Bon, même s'il n'y a pas véritablement eu de Grand Prix en Belgique, on sera de repos le week-end prochain, histoire de recharger les batteries avant d'attaquer le Grand Prix de Sochi en priant pour qu'il se passe quelque chose, parce que celui-là, c'est vraiment moi le Grand Prix qui me fait le plus peur en termes d'ennui. Là, honnêtement.
C'est pas pour rien que le Grand Prix de Russie, je crois, migrera à Saint-Pétersbourg en 2023. Ils en ont certainement tiré les conclusions.
Exactement. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter. Donnez-nous 5 étoiles si vous êtes content de ce qu'on a produit. Et puis, abonnez-vous également. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour nous mettre en condition pour le Grand Prix de Russie. On a tout dit. Alors, on se quitte. On coupe le contact.
Contact.
Pardon, je t'ai oublié, Stéphane. La semaine prochaine, on essaiera d'être meilleur.
Salut, Gilles.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.